L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Sur ce podcast, je parle régulièrement de la manière dont l'extrême droite est extrêmement active en ligne. On est très loin de l'image du vieux franchouillard avec sa bouteille de vin et sa baguette dans un mini village en train de voter l'extrême droite. C'est pas ça l'extrême droite, et d'ailleurs avec mon invité du jour, on nuance énormément, en particulier sur les personnes qui votent l'extrême droite. Mon invité justement, c'est Ashraf Ben Brahim. Il est diplômé de l'école de guerre économique et de Sciences Po, c'est un ancien ingénieur du ministère de l'Intérieur. Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est « Pourquoi l'extrême droite domine la toile ?». Et justement, en fait, on essaye de répondre à cette question. Comment ça se fait qu'ils ont été actifs? Pourquoi ils dominent? Pourquoi ils sont beaucoup plus efficaces que les autres partis? Comment ils font pour manipuler l'information sur Internet? C'est quoi les raids numériques et à quoi ça peut ressembler? Vous allez voir, c'est une discussion qui est passionnante parce qu'en fait, on ne le voit pas vraiment quand on n'est pas militant, extrêmement militant. Lui, il a passé un an à être militant pour l'extrême droite, donc il est vraiment aguerri à toutes ces techniques. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ashraf, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Grégory, nickel et toi?
Ça va super. On va parler d'extrême droite et peut-être que la première question que j'ai envie de te poser avant de parler de digital, c'est de parler du retour politique simplement de l'extrême droite. Comment ça se fait, après la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas si éloignée que ça, que l'extrême droite aujourd'hui représente, pas 50% des votants évidemment, parce que sinon ils auraient gagné les élections, mais quand même une part très large de la population, alors qu'il y a encore quelques années, c'était inimaginable.
Vaste sujet, et puis ça ne concerne pas uniquement la France, mais toute l'Europe, et même d'autres pays. Hein. Je rappelle quand même que même un pays comme décrit comme la plus grande démocratie au monde, l'Inde, a à sa tête Narendra Modi, qui est un premier ministre influencé par l'extrême droite. Voilà. Les États-Unis avec Donald Trump, et tant d'autres. En France, effectivement, l'extrême droite a toujours fait l'objet d'un rejet. Au sortir de la guerre, évidemment, un certain nombre de fondateurs de partis politiques comme le Front National ont collaboré, ont même combattu avec les nazis au sein de la division Charlemagne. Et forcément, c'était pas très glorieux. Malgré qu'il faut pas nier ici une collaboration parfois très poussée de certains Français et notamment de hauts fonctionnaires, d'artistes, d'ingénieurs, d'entreprises, etc. Et puis par la suite, Charles de Gaulle a fait table rase du passé et a dit que voilà, pour faire avancer la France et pour conserver quand même son personnel technique et administratif, il fallait, entre guillemets, mettre au ban uniquement les plus influents. Donc forcément, voilà, un souvenir très douloureux et puis évidemment, le ton s'estompe, mais le Front National n'a jamais été off. C'était en stand-by, ils se sont organisés comme ils ont pu, fait leur propagande comme ils ont pu. Moi, la temporalité que je voudrais retenir sur ces dernières années, sinon on va assommer notre auditoire, c'est vraiment la dédiabolisation du Front National, puisqu'on passe quand même d'un parti extrêmement rétrograde, extrêmement conservateur, extrêmement raciste, à un parti qui met en avant sa préoccupation des couches les plus populaires, les couches les plus touchés par la précarité, par la mondialisation, ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation, ceux qui sont le plus touchés par la désertification des services publics, et j'en passe. Et ça, pour moi, c'est pas anodin, puisque le Front National n'a jamais été un parti social. Voilà, c'est un parti identitaire, acquis à la défense des intérêts des commerçants et des petits patrons, donc avec une ligne pleinement libérale, hein, qui grognait même contre l'État-providence. Donc cette dédiabolisation, pour moi, il faut être honnête, a été un succès. Hein. L'arrivée de Falan Philippot et un certain nombre de purges, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ont été effectuées. Lorsque Marine Le Pen est arrivée au pouvoir avec Louis Alliot et Florent Philippot, bah, ils ont mis dehors les cadres historiques, comme Roger Olyndre, les époux Louis II, Karl Lang, Alexandre Gabriac, et puis eux-mêmes par la suite ont créé leur propre parti, qu'ils ont appelé le Parti de la France. Ils ont soutenu Éric Zemmour pour les dernières élections. Et enfin, évidemment, bah, c'est l'époque incertaine que nous connaissons. Là, on ne va pas se mentir. La France doute. La France aujourd'hui est remise en cause dans sa souveraineté, dans ses acquis, la concurrence aussi des BRICS. Et puis finalement, voilà, on sent bien que le monde n'est plus aussi normé qu'on ne le croit. Et finalement, tout ça crée de l'incertitude, crée du doute. Et puis les récentes crises de confiance envers nos élus ne font qu'alimenter toute cette crainte. Pour autant, je me refuse à jeter la pierre à ces militants et à ces votants. Mon premier livre portait justement sur un an d'immersion dans les partis politiques français. Et pendant un an, j'ai milité avec la section parisienne du Front National dans le cadre de cet ouvrage. Et moi, ce que j'y ai vu, c'est pas vraiment des personnes qui étaient convaincues par les théories de la race, du sang, de l'ethnie. C'était vraiment des personnes qui étaient en souffrance, qui comprenaient pas le monde qui vient. Et à ce titre, je chercherais querelle davantage à nos gouvernants qu'au Front National. Pour moi, le Front National n'a absolument pas vocation à gouverner. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen l'avait admis dans ses mémoires lorsqu'il expliquait que lorsqu'il était arrivé au second tour face à Jacques Chirac, bah, il était en panique, il s'attendait absolument pas à être au second tour ni à gagner. Et il espérait secrètement qu'il allait perdre, puisque il savait très bien qu'il était incapable de gouverner le pays. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je vais pas m'étaler, mais trois temporalités. Le premier, c'est que le Front National n'a jamais été off, d'ailleurs tout comme les autres partis politiques d'extrême droite. Deuxièmement, il y a eu un changement de paradigme et puis une dédiabolisation qui a été réussie. Puis troisièmement, une crise institutionnelle, une crise de confiance, une crise électorale. Et puis un système, je pense, de la Ve République un peu qui arrive à bout de souffle. Mais là, on va rentrer dans du droit constitutionnel et on va passer à la prochaine question, je pense.
En fait, c'est marrant que tu parles là de dédiabolisation et du fait qu'il soit devenu quelque part un peu plus populiste. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que l'extrême droite, c'est toujours populiste. Mais là, ils sont devenus un peu plus populistes dans le sens où ils s'intéressent au peuple. Et ça me fait réagir parce que là, on est le 2 mai. Hier, on était donc le 1er. Et en Italie, où l'extrême droite est passée, ils ont renié, disons, les minima sociaux. Donc, on voit bien qu'en fait, et c'est là où j'aurais dû faire intervenir, c'est en fait les idées d'extrême droite, même s'il y a eu des diabolisations, en fait, ça reste les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les idées qu'ils passent pour être dans la contradiction avec le pouvoir en place ou pour se faire élire, parce que je pense que pour le coup, à la différence de Jean-Marie Le Pen, il y a vraiment une volonté de se faire élire aussi aujourd'hui et une vraie possibilité que ça soit le cas, c'est même très probable. En fait, ce qu'ils disent, c'est pas vraiment ce qu'ils vont faire, quoi. C'est-à-dire que la dédiabolisation, moi j'ai l'impression qu'elle est en surface et qu'elle n'est pas réelle. Mais je me trompe peut-être. Toi, tu as passé un an, donc je ne me rends pas bien compte. Un an avec eux.
C'est ça, en fait, qui est assez ironique là-dedans. C'est que les idées portées par les dirigeants d'extrême droite, parfois, ne sont pas les mêmes que celles de la base militante. C'est ça qui est incroyable. Lorsque je militais au Front National, et que je parlais avec les élus, ils étaient, par exemple, clairement convaincus que Marine Le Pen voulait sortir de l'euro, qu'on allait rétablir la peine de mort, qu'on allait réémigrer un certain nombre de Noirs et d'Arabes. Mais la réalité, c'est que, voilà, il y a la réalité du pouvoir. Meloni, en Italie, elle a accepté évidemment les plans prévus par la Commission européenne et tant d'autres, parce que l'Italie est un État qui, malheureusement, économiquement, ne tient plus la route. Et en fait, il y a le retour du bon sens qui arrive, et ils ne sont pas non plus idiots pour précipiter leur pays dans une crise qui va déboucher soit sur une guerre civile, soit sur la ruine du pays. Et ça s'applique pas uniquement à l'extrême droite, mais même à l'extrême gauche. Lorsque Tsipras est arrivé au pouvoir, Tout le monde pensait qu'ils allaient créer une monnaie parallèle. Hein. C'était le Bitcoin avant l'heure avec Yanis Varoufakis, etc. Mais il n'en est rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a le retour du réel. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Et c'est cela, en fait, qui finalement rend triste, puisque vous avez des gens qui surfent, en fait, sur un ras-le-bol, sur un sentiment d'abandon, oui, sur une souffrance qui est réelle, pour finalement s'en servir comme tremplin électoral.
Et là-dedans, en fait, ils ont... Et c'est assez remarquable, j'ai déjà traité le sujet, mais il y a très longtemps sur mon podcast, ils ont extrêmement bien surfé sur, c'est le cas de le dire, sur les outils digitaux. Comment ça se fait qu'ils soient si aguerris ? En fait, c'est bizarre, parce que quand on pense extrême droite, on pense un peu vieux,
réac,
français, vieux réac, avec sa baguette de pain, sa bouteille de vin, tu vois, à gueuler. En fait, la réalité, c'est qu'ils sont extrêmement forts sur Internet. Et on va rentrer, en fait, toute la discussion, ça va être ça, bien sûr, mais j'aimerais comprendre d'abord comment ça arrive, comment ça se fait qu'ils soient si doués par rapport aux autres partis politiques.
Alors, j'ai envie de dire, déjà, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui encore, se dire d'extrême droite dans la sphère publique, c'est assez compliqué. J'ai grandi en région parisienne, aller tracter pour Zemmour ou pour Marine Le Pen dans un marché en Seine-Saint-Denis ou à Montreuil, vous allez voir l'accueil que vous allez recevoir. Pareil, je ne vois pas quelqu'un sur LinkedIn mettre que avec son travail de boulanger ou d'ingénieur, il est militant chez le Front National. Non, ça c'est pas... D'ailleurs, maintenant, il faut dire Rassemblement National. Mais moi, je suis un nostalgique, je suis toujours Front National. De toute façon, c'est pareil. Donc voilà, déjà parce qu'ils n'ont pas le choix. Et déjà, le Front National a été le premier parti de France à avoir un site Internet. Pareil, sous Marine Le Pen, ça a été le premier parti à mettre en place un espace militant numérique, une cellule de communication numérique et tout un tas de postes de créateurs de contenu pour alimenter la toile. Pourquoi ? Parce que quand vous ne pouvez pas vous exprimer dans la sphère publique, voilà, ils n'étaient pas souvent invités dans les médias, vous ne pouvez pas tenir des meetings, louer des salles, forcément vous vous réfugiez sur quelque chose de virtuel. Et ce ne sont pas les seuls. Mon deuxième ouvrage porté sur la transformation digitale de l'État islamique, voilà pourquoi l'État islamique était si fort dans sa communication digitale avec des vidéos super bien faites en mode OCS ou Counter-Strike, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, le seul espace d'expression non censuré en plus, parce que maintenant il y a de la modération, mais ce n'était absolument pas le cas avant, eh bien c'était Internet. Deuxième des points, c'est aussi un savoir-faire. Et c'est ça, finalement, qui moi, m'a animé dans l'écriture de ce troisième ouvrage. C'est que j'ai été vraiment bluffé par la maîtrise numérique d'un jeune de 20 ans comme un papy de 80 piges. Surtout dans ce que j'appelle les trolls. Voilà. Moi, quand j'ai fait un peu la sociologie de certaines personnes qui venaient me répondre sur Internet quand... ou sur Twitter, quand exprès je mettais un propos contre qui s'inscrivait en faux, contre le grand remplacement, etc. Eh bien, directement, je voyais un peu la sociologie des personnes et avec l'OSINT, ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, j'arrivais à regrouper et à trouver les véritables profils qui se cachaient. Et ça, c'est pas nouveau, puisqu'encore une fois, toute cette expérience qui a été acquise au fur et à mesure des années, voilà, a été aujourd'hui érigée en un statut professionnel. Et puis, troisièmement, eh bien, c'est l'avènement du plug and play. Donc, qu'est-ce que le plug and play ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons à disposition du matériel que vous branchez et directement, en fait, il fait le job. Là, on est en train d'enregistrer un podcast. Ni moi, ni toi, ne sommes des ingénieurs du son. Pourtant, nous allons avoir un très bon son avec un équipement abordable et facilement configurable. Eh bien, c'est pareil pour l'extrême droite. Il n'y a plus besoin d'être une chaîne de télévision pour avoir des caméras. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio télé pour faire du live ou avoir une web TV avec OBS, avec Focusrite, avec Blackmagic. On crée avec 500 € un mini studio de production. Donc voilà, une avance numérique, une formation des militants et surtout, d'ailleurs, je le mettrai à équivalence avec... la formation des militants, mais l'avènement du plug and play qui permet aujourd'hui d'être viral très rapidement et pour pas cher.
Est-ce que Enfin, c'est une assumption que je fais, c'est-à-dire que moi je te dis l'extrême droite est très en avance par rapport aux autres partis. Est-ce que c'est forcément le cas? Est-ce que par exemple la NUPES ou je sais pas comment s'appelle le parti au pouvoir, pour moi c'est En Marche, mais bon bref, LREM, ou la droite, la gauche, parti socialiste, parti de droite, est-ce qu'ils sont aussi forts en numérique ou est-ce que c'est plus grossier? Parce que moi j'ai l'impression qu'on les voit bouger, en particulier on reviendra sur Twitter, mais quand on les voit bouger, on les voit quoi en fait, alors que l'extrême droite c'est beaucoup plus insidieux et on les voit pas nécessairement, ça marche, j'ai l'impression que c'est plus efficace en fait.
Mais parce que l'extrême droite finalement n'est pas organisée autour d'un parti politique, mais plutôt autour d'idées. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Baptiste Marché, qui est un influenceur d'extrême droite, voire quelqu'un comme Julien Rojdi, c'est des personnes qui ne vont pas militer pour un parti, bien que parfois ils appellent à voter pour un candidat, mais c'est des gens qui vont passer par autre chose que la politique pour agréger un public et du contenu. Ça va être des vidéos sur le virilisme, des vidéos sur la gastronomie, des vidéos sur l'expatriation, des vidéos économiques. Donc finalement, ils arrivent à capter un public assez large. Et forcément, lorsque vous faites de la politique en parlant d'autre chose que de la politique, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant qu'un meeting de une heure sur la politique européenne de la France. Voilà. Deuxième point, oui, bien sûr, l'extrême droite domine la toile et il suffit de voir aujourd'hui le nombre d'influenceurs et de clics d'extrême droite versus ceux de gauche ou d'extrême gauche. Il n'y a pas photo. J'en ai dénombré à peu près 50 qui atteignent facilement le million de vues et ils sont cités dans le livre, alors que bon, extrême gauche, il doit y avoir quelqu'un comme Usul qui dépasse pas les 300 000 ou 400 000 abonnés et qui est pourtant lancé par des médias comme Mediapart, etc. Donc oui, la comparaison ici, elle tient pas. L'extrême droite est beaucoup plus présente et beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus mobilisée que la gauche. Mais là, nous parlons numériquement. La campagne de Jean-Luc Mélenchon sur les deux dernières était une réussite d'un point de vue digital, puisqu'ils ont réussi à diversifier, ils ont réussi à créer des plateformes. J'ai le souvenir, en 2017, même d'un jeu vidéo, voilà, inspiré de Mortal Kombat, avec Jean-Luc Mélenchon qui secouait Jérôme Cahuzac pour lui faire rendre l'argent et qui arrivait à se transformer en Super Saiyan 2 une fois que vous aviez secoué suffisamment d'argent. Voilà, mais ça reste en fait trop cantonné à la sphère politique. Voilà. C'est-à-dire, hors période d'élection, ils sont invisibles. Alors que l'extrême droite, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas l'imposition dans le débat public ou sur les plateaux TV, à commencer par Twitter, sur le voile, sur tel scandale, la compromission de tels élus avec l'islam radical, parce que derrière,